Extrait de Carte blanche à Jacques Lacombe, c'est un concert des élèves du Conservatoire de musique de Trois-Rivières. On entendait l'environnement un petit peu bruyant, mais au moins il n'y avait pas de sonnerie de téléphone cellulaire. Bonjour Jacques Lacombe.
Bonjour Hélène.
Ça me fait plaisir de vous parler. Jacques Lacombe, ben, félicitations pour cette nomination. Vous êtes maintenant le directeur artistique et chef de l'orchestre, chef principal de l'Orchestre classique de Montréal, qu'on appelle aussi l'OCM. Vous succédez donc à Boris Brott comme chef d'orchestre de l'OSM, l'OCM, dis-je bien, après son accident d'avril 2022. Quel était votre lien avec Boris Brott, Jacques Lacombe?
Oh mon Dieu, je connais Boris depuis longtemps. Il a même joué un rôle assez important dans mon développement, comme beaucoup de jeunes musiciens, parce que je pense qu'il y avait une de ses passions aussi, c'était d'aider les jeunes talents à éclore. Et donc, dans mes années d'études au conservatoire, il est venu, quand j'étais étudiant donc à classe de direction d'orchestre au Conservatoire de musique de Montréal, il est venu juger mes examens.
Ah oui.
Et après ça, j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse d'études de longue durée en direction d'orchestre du Conseil des arts du Canada. Et Boris était sur le jury, même la deuxième année où j'ai fait demande de bourse, c'était avec l'orchestre de philharmonique de Hamilton, dont il était le directeur artistique et directeur fondateur. Donc, il m'a beaucoup soutenu au début de ma carrière. Après, on s'est côtoyé à l'occasion. Des années plus tard, j'étais pendant quelques années professeur de direction d'orchestre au conservatoire. Donc, il est venu juger aussi les élèves de la classe. Et puis, c'était toujours très agréable comme contact. C'est quelqu'un de très positif. Et puis, voilà. Donc, ça a rendu sa fin de tragique encore plus difficile à accepter, parce que c'est vraiment il était en pleine forme, et puis voilà, il a été victime d'un accident, se faire frapper comme ça par une voiture en prenant une marche le matin,
c'est tellement bête.
Une fin vraiment absurde. Ouais.
Et quand on vous a approché pour vous proposer là, de prendre sa succession en quelque sorte, est-ce que vous avez dit oui immédiatement? Est-ce que vous ressentiez une certaine pression?
C'est un mandat un peu particulier. J'ai occupé pas mal de postes de direction artistique dans ma carrière, mais c'est la première fois, effectivement, que c'est un héritage très spécial, parce que l'orchestre qui est un des plus vieux orchestres au Québec, voire au Canada, on va amorcer là, notre 84e saison dans quelques mois. Cet orchestre-là a été dirigé par deux hommes, par une famille, en fait. Donc, le fondateur, Alexander Brott, le père de Boris. Et lorsqu'Alexander s'est retiré, donc Boris a pris le relais. Fait que c'est vrai que c'est... Il y a toute une tradition et toute une histoire qui vient avec ce poste-là. Et au départ, j'avais jamais travaillé avec l'orchestre avant le décès de Boris, et le hasard des calendriers a voulu que je sois disponible la saison dernière pour faire le dernier concert de la saison qu'il aurait dû diriger à la Maison Symphonique.
Ah, ouais.
Et puis c'était assez un contact assez chouette avec l'orchestre. Et après, dans la foulée, on m'a demandé de faire un disque, donc j'ai fait un disque avec eux cet été, l'été dernier en fait, d'œuvres d'un jeune compositeur québécois, Maxime Goulet. Et donc, ça m'a permis de voir comment la chimie se passe, parce que la relation entre un directeur musical et son orchestre, c'est un peu comme un mariage. Hein. Je te dis, il faut...
faut que ça clique.
Oui, il faut que ça clique, exactement. Et puis, je trouvais que la dynamique était intéressante. Puis donc, au fil des discussions, on m'a demandé si je serais intéressé à considérer le poste. J'ai rencontré le comité de sélection. On a échangé. Puis finalement, je me suis dit que l'aventure me tentait. Et puis, pour moi, c'est un peu un retour aux sources, parce qu'au début, donc l'orchestre est un orchestre à base, un orchestre de chambre. Ils arrivent de faire des programmes à grand effectif, mais à la base, c'est un orchestre à cordes, un orchestre donc de chambre. Et au tout début de ma carrière, j'ai été chef associé d'un orchestre de chambre, d'un orchestre à cordes à Montréal, l'ensemble Mathy. Fait que c'est un peu un retour aux sources d'un répertoire que j'ai beaucoup côtoyé au début de ma carrière, puis que j'ai un peu moins fait au cours des dernières années. Fait que ça me plaît énormément aussi.
Et Jacques Lacombe, qu'est-ce que vous comptez apporter à cet orchestre?
Ben, j'ai établi que l'orchestre a été construit sur trois piliers. Il y a l'excellence artistique qui me semble avoir toujours été une priorité. L'originalité puis l'innovation dans la programmation et la pertinence dans la communauté. Donc, j'ai voulu construire une programmation qui soit, comme moi j'aime les faire, c'est-à-dire une programmation qui soit stimulante dans le sens que ça, d'exposer le public et les musiciens aussi à des œuvres du répertoire qui sont moins connues, qui sont moins jouées, des œuvres d'aujourd'hui aussi, de présenter les compositeurs d'aujourd'hui. Donc, la création va tenir une place importante et que cette programmation-là tienne également en parallèle, en sorte de dialogue avec les grandes œuvres du répertoire. C'est pour ça qu'on va présenter, par exemple, le Messie d'Endel, le Requiem de Mozart, ou même des œuvres comme La Nuit transfigurée de Schoenberg, qui font partie des œuvres maintenant du répertoire pour orchestre à cordes. Et à côté de ça, des choses moins entendues, comme par exemple, il y a un opéra tango de Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires, qu'on va présenter, qui est rarement donné et qui est une œuvre vraiment très, 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 très forte. Donc, voilà, j'essaie d'équilibrer pour que le public en ait à la fois un peu de réconfort, je dirais, dans des œuvres qu'on connaît puis qu'on aimerait entendre, et aussi d'être surpris, stimulé, charmé par des découvertes. Il y a tellement de belles musiques qu'on ignore, malheureusement. Donc, j'essaie d'un peu de me faire le promoteur de ce type de répertoire aussi.
Et vous avez élaboré cette saison 2023-2024 avec Taras Kulich. Je ne sais pas si je prononce bien son nom.
Kulich, effectivement, oui, Taras Kulich. Oui, c'est un ami de longue date. Taras est le directeur général, en fait, de l'orchestre. Et Taras, je le connais depuis, mon Dieu, peut-être une trentaine d'années.
Ah,
Taras
oui.
avait une formation de chanteur. On s'est connus à l'époque. Lui était stagiaire à l'atelier de l'Opéra de Montréal. Et moi, j'étais chef de chœur et chef assistant à l'Opéra de Montréal. Et c'est là qu'on s'est connus. Et après, on a fait des concerts ensemble et tout ça. Puis Taras, progressivement, s'est dirigé vers l'administration. Et donc, c'est vraiment un ami de longue date. Et puis, au départ, avant même d'être nommé, de suite au décès tragique de Boris, j'avais offert, en fait, Taras m'avait demandé si, dans le printemps, si j'accepterais de l'aider un peu à élaborer la saison prochaine sans savoir qui serait le prochain directeur musical. Donc, j'avais accepté déjà ce mandat-là. Puis finalement, ben, ça s'est concrétisé dans la durée. Donc, c'est vrai qu'on travaille bien ensemble parce que c'est important que à la fois l'artistique et l'administratif aillent dans la même direction. Et là, de par notre relation, on a une combinaison. Je pense qu'il nous met beaucoup de bonnes cartes dans notre jeu pour avoir une équipe gagnante, je dirais.
Est-ce qu'il y aura beaucoup de chants au programme, étant donné que Taras Kulich est chanteur?
Tous les deux, on aime la voix, donc il ferait effectivement, en tout cas, je ne sais pas si ce sera comme ça à chaque saison, mais pour cette première saison, c'est vrai que la voix tient une place importante. Je pense qu'il y a de la voix 4 ou 5 de nos programmes. Puis moi, j'ai toujours trouvé de toute façon que pour des musiciens, pour des instrumentistes, de côtoyer les chanteurs sur une base régulière, c'est extrêmement bénéfique parce que pour moi, le plus bel instrument au monde, c'est la voix humaine. Et quand on aborde la musique à l'instrument, on parle souvent de termes comme chanter la musique, enfin de chanter les phrases et tout ça. Donc, et puis de travailler avec les chanteurs, ça veut dire d'être à l'écoute du souffle humain et tout ça. Et c'est comme ça, à mon avis, que la musique doit être faite. Donc, je trouve ça très, très positif que d'avoir dans notre programmation une place importante à la voix. Et puis, dans mon activité de chef d'orchestre aussi, j'ai une activité de chef lyrique, de chef d'opéra qui est assez importante aussi. Donc, ça allait de soi que la voix tienne une place de choix dans notre programmation.
Alors, vous dites que la voix humaine, c'est votre instrument préféré. Votre deuxième, ce serait lequel?
Ça, c'est une question piège, parce que évidemment, si je réponds à ça, tous les autres instruments de l'orchestre vont me faire la tête. Mais je vous ai plus à la blague, mais je vous dirais que moi, mon instrument, c'était l'orgue. J'ai fait piano et j'ai fait l'orgue, donc j'ai eu mon prix de conservatoire en orgue, mais j'ai aussi fait du violoncelle. Et le violoncelle, je trouve que c'est un instrument qui est aussi assez proche de la voix humaine. Donc, ça m'a permis aussi de mieux connaître les cordes. Et donc, dans cette formation-là, me sert aujourd'hui dans mon métier de chef d'orchestre parce que la famille la plus importante au sein d'un orchestre symphonique, c'est les cordes. Et dans le cas de l'Orchestre classique de Montréal, le cœur de l'orchestre, c'est un orchestre à cordes. Donc, ça me permet d'avoir peut-être une façon de travailler avec eux un peu plus précise, un peu plus en détail je ne suis pas vraiment un violoncelliste, mais je comprends les défis, les mécanismes et tout ça, les coups d'archet et tout. Donc, ça me permet peut-être d'aller un peu plus loin encore dans mon travail avec l'orchestre.
Alors, vous avez étudié ben, vous avez étudié en orgue, je ne sais pas si ça se dit, je ne pense pas.
Vous êtes un organiste? Je suis un organiste à la retraite, oui.
Alors, à la retraite, et un violoncelliste aussi à la retraite, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez bifurqué vers votre métier de chef d'orchestre?
Mais en fait, dès le début, dès que j'ai commencé à faire de la musique dans mon Trois-Rivières natal, j'ai commencé à faire du piano relativement tard. J'avais 10 ou 11 ans quand j'ai commencé à faire de la musique sérieusement. Et instinctivement, j'avais tendance à ramasser des amis, puis à faire des petits groupes de musique de chambre. Je faisais des arrangements. Et puis sans m'en rendre compte, je jouais déjà un petit peu le rôle de chef d'orchestre au sein de ces petits ensembles-là. Et c'est mon premier professeur d'orgue, en fait, Raymond Davelui, qui m'a ouvert les yeux sur le métier de chef d'orchestre. Il y avait probablement déjà décelé dans ma personnalité que j'avais peut-être ce qu'il fallait pour devenir chef d'orchestre. Et c'est lui qui m'a ouvert les yeux à cette éventualité-là. Donc, j'étudiais l'orgue à Trois-Rivières. Il m'a encouragé à venir terminer mon cours à Montréal pour que je puisse commencer mes études en direction d'orchestre aussi. Puis à l'époque, le Conservatoire de musique de Montréal était la seule école de musique de niveau universitaire là, qui offrait le cours de direction d'orchestre au Canada. Donc, et c'est comme ça que ça m'est venu. Et puis, bon, depuis... Puis c'est vrai que j'ai toujours été... À l'orgue, j'aimais bien l'orgue, mais c'est un instrument qui est assez solitaire. On est tout seul au jubé, tout ça. Et moi, j'ai toujours été plutôt quelqu'un d'équipe. Enfant, j'ai fait du sport, j'ai fait le hockey et le baseball. Donc, j'étais toujours plutôt un gars de gang, comme on dit. Et du coup, ben, la direction d'orchestre me permettait justement de travailler et d'être entouré de musiciens.
Et pour les néophytes, Jacques Lacombe, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que ça signifie, tous ces mouvements de baguette, de gestes que vous faites devant les musiciens?
Ben, c'est très simple. C'est-à-dire, d'une part, la baguette est un outil pour aider visuellement les musiciens à se repérer dans la mesure, c'est-à-dire que la main droite, généralement, est la main qui tient la baguette et on bat la mesure, c'est-à-dire qu'on marque les temps. La mesure est divisée en temps. Il y a des mesures à 2 temps, 3 temps, 4 temps, et la main droite sert à ça essentiellement, et la main gauche sert à exprimer les émotions de la musique. Donc, par les gestes, on peut exprimer si la musique est évidemment le tempo, rapide, lent, fort, doux, quelle intensité, tout ça, s'il y a des accents et tout ça. Donc, c'est par ces gestes-là et par le visage qu'on arrive à communiquer l'expression. D'ailleurs, c'était durant la pandémie, c'est un défi. Lorsqu'on a dû diriger avec masque, c'est comme si on avait une partie de notre émotion qui était un peu voilée par le masque-là. Fait que ça, c'est vrai qu'au début de la pandémie, c'était un défi de pouvoir diriger avec masqué comme ça. C'est pas naturel, en tout cas.
Parce ça doit.
C'est un langage corporel. Hein, donc c'est, voilà.
Oui, c'est tout le corps qui parle.
Exactement.
Oui, le corps qui devient directeur artistique d'une certaine façon. Et le fait que vous soyez quand même, vous allez être occupé, j'imagine, puisque vous êtes le directeur artistique plus le chef principal de l'OCM, est-ce que vous allez pouvoir travailler avec d'autres orchestres, avec d'autres ensembles musicaux?
Oui, c'est l'idée. C'est à peu près la norme dans le domaine maintenant. Donc moi, c'est sûr que bon, il y a toute la partie programmation, mais ça se fait maintenant. Ça peut se faire en télétravail, hein, comme on dit, parce que donc on. Mais après ça, évidemment, pour les concerts, l'orchestre présente peut-être 8 à 10 concerts par année. Je vais en faire la majorité, mais pour un concert, ça veut dire 2-3 jours de répétition plus le concert. Donc c'est une période assez courte et assez intense. Et en plus de ça, j'ai quelques engagements d'opéra. Je commence la saison en France en septembre. Je dirige un opéra pendant un peu plus d'un mois. Après ça, j'ai des opéras.
Lequel, l'opéra?
Je travaille à l'Opéra de Nice. Je vais faire l'Acmé à l'Opéra de Nice à l'ouverture de saison. Puis après ça, je fais Don Pasquale à Vancouver en janvier-février. Et la même production que je vais faire en avril-mai à Toronto au Canadian Opera Company. J'ai quelques concerts, je crois, aussi au travers de ça. Là.
Donc, un agenda quand même assez garni.
Oui. Le c'est pas encore la retraite, on va dire.
Mais vous êtes encore bien jeune.
Bientôt 60 quand même.
Ah oui, 60. Est-ce que vous avez des envies de retraite?
Non. Ben, les chefs d'orchestre, on a la réputation de vivre vieux, donc...
C'est vrai.
Puis en plus, c'est vrai que ça peut sonner cliché, mais on n'a pas vraiment l'impression de dire c'est mon travail, c'est mon gagne-pain, mais en même temps, c'est ma passion, mon plaisir, donc c'est que du bonheur, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête, en fait. Puis, ça, puis en plus, je fais un métier qui me permet de voyager, de rencontrer des gens un peu partout. Donc, c'est, je me sens vraiment privilégié. Puis surtout avec, on évoquait tout à l'heure, c'est vrai que la pandémie, pour certains musiciens, certains collègues, a été très, très difficile. Donc, moi, je fais partie des chanceux qui n'a pas été trop écorché par ça et dont le travail continue. Mais pour plusieurs musiciens, même sur la scène montréalaise, il y a des gens qui ont décidé de se réorienter parce que c'est devenu très, 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 très difficile.
Ils ne pouvaient plus gagner leur vie.
Exactement.
Ouais. Alors, vous parlez de votre métier comme quelque chose qui vous rend heureux. Vous parlez de bonheur. Est-ce qu'il y a des désavantages? Ce serait quoi la chose qui vous embête le plus dans votre métier de chef d'orchestre?
Oh mon Dieu, c'est difficile à répondre parce que pour certains, les voyages peuvent être difficiles. Moi, j'ai une capacité d'adaptabilité assez rapide.
Décalage horaire, c'est pas difficile.
Décalage horaire, j'en souffre pas beaucoup. Je dors assez facilement dans l'avion en plus parce que juste avant la pandémie, j'avais un poste en Allemagne et puis un poste ici. Les deux années précédant la pandémie, c'est un peu fou, mais j'ai fait 20 allers-retours par année entre l'Amérique et l'Europe, parfois deux fois par semaine. Il m'est arrivé de prendre l'avion le vendredi, d'aller déjà en opéra en Allemagne le samedi puis de rentrer le dimanche. C'est un peu exagéré, là, au bout de deux ans. Je ne fais pas ça toutes les saisons. Mais ça, j'ai cette chance-là. Par contre, pour revenir sur votre question, ce qui est la chose la plus difficile, c'est que le métier de chef d'orchestre, ça demande aussi un peu de psychologie. Et il arrive parfois des situations, surtout lorsqu'on est directeur artistique, on est patron, parfois il faut aussi, il peut arriver des situations où il faut faire la discipline, si un musicien ne performe pas à sa hauteur, il faut intervenir. Ça demande un peu plus de toucher. C'est peut-être la partie qui est la plus exigeante, la plus ingrate du rôle de directeur.
Mm-hmm. Alors, il faut user de psychologie, mais j'imagine qu'avec l'expérience aussi, on apprend à savoir comment dire les choses sans nécessairement insulter ou faire souffrir le musicien parce que vous êtes des êtres très sensibles.
Exactement. Puis il faut établir une relation de confiance. Puis si ça se fait dans le respect, en général, ça se passe plutôt bien.
Jacques Lacombe, ça a été un plaisir de parler avec vous. Si on va voir tous les détails sur la 84e saison orchestre.ca.